Bonjour à tous, salut à tous, et ravi de vous retrouver en compagnie de mon ami et compère, mon alter ego, mon double, Jean-Pierre Fleury. Nous allons parler aujourd'hui du bois, ce matériau naturel d'origine végétale avec une norme NF, le B50-003.
Il y en a de la poésie là-dedans.
Ben alors, le bois dans tous ses états avec Tony Jaffer et Stéphane Casalonga.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Dis-toi, le bois dont on va parler aujourd'hui, une émission n'y suffirait pas, a tout le temps été utilisé par l'homme en définitive.
Ah oui, complètement. Ça a été un des premiers matériaux. Hein. J'espère que ce sera là, encore pendant longtemps comme ça. On va parler du bois d'arbre.
Hein. Oui, bien sûr.
C'est bien sûr un pléonasme, mais c'est un truc qui me faisait rire. Quand on demandait aux personnes âgées, c'est quoi comme bois ? Ils disaient, c'est du bois d'arbre.
C'est joli, remarqué. Hein.
Ah oui, mais c'est bien. C'est un très beau pléonasme. Alors justement, avant de parler du bois, vous avez rappelé les normes NF, etc. On va se souvenir que c'est effectivement, on va pouvoir dire que le bois est un matériau naturel d'origine végétale. Formé en grande partie par le tronc des plantes ligneuses. Le chêne, le hêtre, donne du bois. Pas les bambous, pas les palmiers, pas les cactus. On verra pourquoi. On va parler des arbres, justement, parce que c'est quand même, sans les arbres, on l'a dit, il n'y a pas de bois. Les arbres, on le sait maintenant, de plus en plus, mais on va le savoir encore plus, parce qu'on en découvre tout le temps. Et d'ailleurs, on risque après d'avoir, on va peut-être se servir du bois à toutes les sauces, si j'ose dire, quand on saura que, bon, bien sûr, ce sont des êtres vivants. Hein. On sait qu'ils respirent, par exemple, la photosynthèse. Mmh. On reviendra là-dessus, mais peut-être pas trop. Ils gardent l'arbre, on va le voir après, c'est du carbone.
Hein, le fameux taux de carbone du bois, exact.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas un taux, c'est du carbone, le bois. Nous sommes du carbone.
Du carbone.
Nous ne sommes pas de l'oxygène, nous respirons de l'oxygène. Mais nos os, notre viande, etc., c'est du carbone. Tous les animaux, on va faire l'expérience, vous laissez votre côte de bœuf trop longtemps sur le barbecue, ça donne du charbon.
Du charbon, oui.
Ben donc c'est du carbone, hein, c'est charbon-carbone, c'est la même chose. Hein. Bon, ils nous donnent de l'oxygène, merci les arbres, hein, ça, on reviendra là-dessus si vous voulez. C'est des êtres vivants, parce qu'ils ont un sens du toucher. Par exemple, certains mimosas, des plantes sensitives, vous les touchez, hop, elles se rétractent.
Elles se rétractent, c'est vrai.
Eh oui, ouais. C'est complètement étonnant, ça aussi. Ça n'a pas de muscles, hein, mais c'est quand même capable. Quand il y a du poids de neige, ils sont capables de relever les branches pour ne pas que ça tombe. Eh oui. Est-ce qu'ils sont sensibles à la douleur, hein? Vous allez me poser la question.
Quand la sève qui s'écoule, c'est leur sang.
Bien sûr. Ben oui.
Alors
est-ce que c'est pas parce qu'ils perdent leur sang qu'ils ont mal? C'est autre chose.
Non, mais c'est une blessure.
Mais on sait qu'ils ont mal. Parce que, par exemple, on fait des expériences maintenant. On s'amuse sur des colzas, à frapper des colzas. Alors, je ne sais pas comment on fait. On leur donne des baffes aux colzas.
Ouais, hein.
Et ceux qui sont à côté sont bien traités. Ceux qui ont pris des baffes, ils sont plus petits, plus rachitiques que ceux qui sont à côté.
Donc, c'est bien la preuve qu'ils souffrent.
Donc, qu'il ne faut pas battre ses colzas.
Oui, il faut battre sa coulpe, mais pas ses colzas.
Oui. Ils sont solidaires. Ça, c'est assez extraordinaire. Puisque cette douleur dont on parle et les alarmes, on sait. C'est une des premières choses qu'on ait su, c'est que on parlait de la savane justement, oui. Il n'y a pas longtemps, et on s'est aperçu, c'était des chercheurs du côté du Kruger, je crois, un acacia est mangé par une antilope, il va déjà fabriquer lui-même des amertumes pour que les feuilles ne soient plus consommables, et ensuite il va prévenir les arbres qui sont autour.
Pour dire, faut regarder, il y en a une qui est venue me croquer.
Faites gaffe, préparez, vous laissez pas faire. Et on s'est aperçu que maintenant, tout ça, ça fonctionne. Vous savez, on parle de la mycorhisation pour les truffes. Les truffes avec les chênes ou les noisetiers. Oui. Donc, les racines sont exactement comme les axomes, les neurones, etc. C'est-à-dire que ça va chercher, ça court dans le sol, et avec des impulsions électrochimiques, exactement celles qu'il y a dans notre tête, ça va prévenir les autres arbres, et même d'autres espèces. Donc, c'est assez fantastique. Les arbres sont bien élevés. Est-ce que
bonjour, alors, madame.
Même les plus petits, on va prendre la position du sous-préfet au champ, vous savez,
on dort sur le dos.
Hein, on est bien aise et on regarde la cime des arbres. Et vous êtes aperçu qu'il y a toujours des fentes entre les arbres.
Exact.
Jamais un arbre ne va sur les plates-bandes de manière horizontale d'un autre.
Hein.
Ça s'appelle des fentes de timidité.
Ouh, c'est joli ça.
C'est beau ça. Hein, et puis, un truc insolite, les arbres font de la musique.
Les arbres font de la musique.
Oui, alors c'est eux-mêmes d'ailleurs. Alors ça, on va revenir là-dessus, bravo. Ça, c'est des violons.
Ah ben oui.
On va voir que c'est fait avec du bois d'arbre. Mais ah, en attendant, oui. je vais expliquer un petit peu comment les arbres font de la musique quand ils ne sont pas dans les mains d'un musicien.
Alors dites-nous tout.
Il arrive qu'il y ait des périodes de sécheresse.
Oui.
La sève circule dans des canaux.
Oui.
Ces canaux sont à sec. Oui. Eh bien, il se produit exactement le même genre de borborygme que lorsque vous tirez sur une paille et qu'il n'y a plus rien au fond du verre. Voilà, vous faites
oui,
très bien.
Ça bloque. Je fais la paille, je fais bien la paille. C'est un métier.
Oui, voilà. Donc c'est assez étonnant. Alors, j'ai cru reconnaître quelques violons.
Ah oui, ceux-là.
Nostral.
Ah oui, ça, c'est ouais. du violon traditionnel de Sermane. Alors. Et on dansait d'ailleurs sur ces musiques-là.
Alors, le lien, l'importance du bois, justement. Ça sert à tout et aux choses essentielles.
Ah oui, oui.
Là, ça sert à faire de la musique. Hein, et puis on va voir que ça sert, pourquoi pas, à faire des roues, entre autres. Mais il y a un milliard de choses qui sont...
Il y a plein de trucs qui sont avec ça.
On va démonter un Stradivarius.
Ah bah oui, hein. Oui, pourquoi pas.
Ouais, hein, ouais. On n'est pas forcément un ici.
Non, non.
Il y a toutes sortes de bois. Mais pour la plupart, le bois des luthiers, encore maintenant, c'est fait avec... le fond, c'est de l'érable.
Souvent, oui. Ouais.
C'est très souvent. C'est de l'érable ondé, même, très souvent.
L'autre partie... Donc c'est du bois canadien, quoi.
Non, il y a des érables ici.
Il y en a ici aussi. Bon.
Ah oui. On voit d'ailleurs, lorsque l'automne arrive, c'est les premiers arbres à changer de couleur. Alors il y en a moins qu'au Cap Tourmente au Canada, mais il y en a quand même. Les alisiers sont des érables, si vous voulez d'ailleurs. Aussi.
Ah, qui deviennent très, très, très rouges.
Oui, hein, très rouges.
C'est ça, oui.
Alors ces arbres-là sont ondés, c'est-à-dire que, c'est, d'ailleurs, le mot onde, on pourrait penser que c'est une onde musicale, non pas du tout.
Oui.
C'est parce que les tanins dessinent des choses à l'intérieur des chairs de l'arbre, et donc ça fait des dessins dessus. Quoi. Ils sont ondés, c'est plus joli, c'est la partie supérieure. Une autre partie, c'est du pin. Hein. Des pins qui ont poussé de manière extrêmement lente. En général, on va les chercher dans les combes des montagnes, le fond de la vallée.
Le fond de la vallée, oui.
Parce que là, il n'y a pas trop de différence de pousse d'une année sur l'autre. Hein. Ensuite, il y a l'ébène pour ce qu'on appelle le cordier.
Ah oui, ça c'est...
Les chevilles et les boutons sont faits en palissandre, palissandre. Vrai. Les archers, c'est du pernambouc. C'est tout ça, c'est des bois qu'on allait chercher, c'était des bois dits précieux. Et puis il y a même les vernis. Les vernis, c'est fait avec de la résine. Donc la résine, ça vient de...
C'est clair. Et le bois de loupe, c'était pas un truc comme ça, ça.
Alors la loupe, on reviendra dessus, c'est un accident qui est arrivé à l'arbre.
Ah d'accord.
On en parlera, c'est extrêmement recherché, mais c'est une cicatrice, c'est un kyste. Le vernis, donc de l'essence de térébenthine, on rappelle que l'essence de térébenthine, c'est du jus, c'est de la sève de pin qui a été, qui a été réduite, qui donne ça. Et il semblerait, cher monsieur, que le Stradivarius qu'on a démonté soit un Stradivarius, parce que c'était le vernis, justement.
Ah, c'est pas le bois.
C'est le vernis qui ferait la différence. Le maître de Crémone, donc Stradivarius, a une formule de vernis qui donnerait la sonorité du Stradivarius.
Alors, la sonorité, vous disiez, le bois communique, y compris par le son.
Oui.
C'est ce que vous disiez. Le bois qui craque, c'est quoi ? C'est quoi ?
C'est parce qu'il a mal. Il a mal. C'est le son de... Alors là, il faut peut-être partir parce qu'il y a les poutres qui commencent à... Ou alors c'est l'éternel.
C'est un vieux plancher.
Ah oui, ouais.
Et il est vieux celui-là.
Oui, il est vieux. Puis à mon avis, il y a quelqu'un qui a du poids, qui a marché dessus.
Caboué, merci pour vous. Merci pour votre serviteur. Alors il souffre.
Là, c'est la mécanique. C'est les fibres du bois qui se... un bois qui craque, c'est aussi... On reviendra sur les qualités et les défauts. C'est la rétractation. C'est-à-dire que le bois se rétracte pendant l'été, par exemple, parce qu'il fait sec.
Ouais. Hein.
Il ne se rétracte pas en longueur, d'ailleurs. Il se rétracte dans son épaisseur. Hein. Donc là, il craque, parce qu'il faut que tout ça se remette en place. Et puis, quand on revient des pluies, il retrouve... Sa forme. Donc tout ça, ça craque parce que les éléments de charpente se battent les uns contre les autres pour trouver leur place.
Cela dit, c'est beau bien que le bois est vivant.
Est vivant, complètement.
C'est pas parce qu'il craque qu'il va se casser la figure.
Voilà. Alors on en revient toujours à la musique. Hein. Le papier qui sert pour les partitions.
Oui.
Moi, là, je suis... Alors peut-être que j'ai des problèmes, mais je suis admiratif, encore maintenant, devant une feuille de papier. c'est un miracle. Un miracle qu'on se met quelque part tous les matins, on n'en a rien à cirer.
Oui. Hein,
mais c'est quand même un véritable miracle,
c'est
cette
vrai,
feuille
vrai,
de papier. Imaginez le premier homme qui aurait vu quelqu'un qui débarque et qui voit cette feuille de papier, c'est absolument fantastique. Ça peut servir à tout. Encore une fois, le papier, le carton, c'est des matériaux extrêmement solides.
Ouais.
Et c'est de la fibre de bois. Une grande partie des bois qui sont coupés là aujourd'hui à l'heure qu'il est, vont servir à faire des emballages, vont servir à faire du papier à... Hein, voilà.
Ah, puis, ce qui est assez étonnant sur le bois, Jean-Pierre, c'est que... alors, vous le disiez, donc, c'est un moyen d'expression artistique, vous avez parlé du violon et de belle manière,
ouais.
La menuiserie, bien évidemment, bon... mais c'est un support pour plein de trucs, quoi. C'est ça que je trouve extraordinaire. Vous disiez le papier, le bois qui était utilisé. Alors ça, je regarde ça sur Internet. L'Égypte ancienne utilisait le bois aussi avant d'être peint, en cuisine aussi, puisque alors en cuisine.
La cannelle, oui.
La cannelle. Ouais, ça,
oui.
C'est
mais on va revenir là-dessus.
Alors, par contre, vous disiez une chose qui est très importante. Et pour ça, je reviens dessus.
Tiens.
Mais c'est toujours important ce que vous nous dites là.
Que
le bambou, par exemple, n'est pas un arbre.
Non, alors on reviendra tout à l'heure sur les palmiers, si vous voulez, puisque ce sont des graminées, hein, qui ont une force énorme, les graminées en particulier, donc les bambous. Le bambou, les graminées poussent par leur base.
Exact, oui.
Alors que les arbres poussent par leur extrémité. Donc quand l'extrémité, c'est la partie la plus vulnérable, quand elle est bouffée, par exemple, c'est très mauvais. Alors que pour l'arbre, ça n'a aucune importance, c'est les parties qui sont prêtes à mourir. On parlait ça sert à tout, sauf à faire on en fait des pipes, ça c'est certain.
Ouais.
Une roue de charrette, c'est un véritable miracle. Et c'est un produit du terroir. Hein, si on l'entend grincer. Le moyeu, c'est fait avec de l'orme.
Il y a différents matériaux, donc différents produits.
Ah oui, juste avec pour la roue de charrette, c'est pour ça que je parle de ça. Après, il y a un arbre, je me suis amusé à regarder un arbre qui est le micocoulier, par exemple.
C'est
un petit arbre, c'est un véritable miracle. On en parlera si on a le temps. La roue de charrette, le moyeu, c'est fait avec de l'orme. Plus maintenant d'ailleurs, parce qu'on ne fait plus de charrette et il n'y a plus d'orme. La France est désormais, si j'ose dire. Puisqu'il y a le scolite qui donne la graphiose. Les rayons, c'est le plus solide, c'est fait avec du chêne. Alors pourquoi l'orme? Parce que c'est un bois dur et qui se travaille. Le chêne, parce que c'est solide aussi. Donc il y a encore des chênes d'ailleurs. La France est désormais, elle n'est pas encore déchaînée, fort heureusement. Et le tronc, c'est fait avec du frêne. Parce que c'est un bois qui est solide, mais en même temps qui se travaille. Le tour, il faut pouvoir le cintrer. D'ailleurs, le métier de charron, c'était un métier extraordinaire. Comme à chaque fois, d'ailleurs, tous ces métiers qu'il y avait. Le luthier, charron, ébéniste, menuisier, charpentier, tonnelier, tout ça, c'était des métiers extraordinaires, avec des outils à chaque fois, dont les noms sont extraordinaires, les varlopes, toutes ces choses, c'est toutes sortes de rabots, c'est fantastique.
Non, franchement.
Alors, on va couper un arbre, là, si vous voulez. Alors, on va déjà dire, se rappeler que c'est un végétal, l'arbre, que c'est apparu il y a environ 500 millions d'années. Hein, avant, il y avait des végétaux, puisqu'on en retrouve dans le carbonifère, mais c'était plutôt des fougères. Hein, style fougère. Donc la fougère n'a pas de tronc non plus. Hein. Un arbre, ça peut se définir par le fait qu'il a un tronc. On a dit que le bois vient du tronc de l'arbre.
Exact. Hein.
Donc environ 500 millions d'années. On prend un morceau de bois, n'importe lequel, on le coupe. Hein, on en fait une tranche, on en fait une bûche.
Et là, il y a des stries au milieu.
Alors, on va parler de tout ça, parce qu'en gros, il y a six parties qu'on peut observer. Hein. On part du centre. Le centre, c'est la partie la plus ancienne. Hein. C'est là-dedans qu'il pouvait y avoir on pourrait dire que c'est la moelle, mais la moelle, il n'y en a plus. Un tronc qui est environ 80 cm de diamètre, cette partie-là est morte. Hein. C'est la partie la plus ancienne. Après, il y a ce qu'on appelle le duramen.
Ouais.
Le duramen, c'est le bois lui-même, c'est du bon bois d'œuvre. Et c'est là où on trouve les cernes. D'ailleurs, ce n'est pas une cerne, c'est un cerne.
Un cerne.
Un cerne. Donc, c'est les cellules mortes qui se sont lignifiées. Hein, et ça donne le bois. C'est la partie la plus foncée de la coupe. On continue à aller vers l'extérieur. On arrive à l'aubier. C'est quelque chose qui était en attente de durcir. Ce n'est pas du bon bois. Hein. C'est ce qu'on, dans les, quand on a des poutres, on voit, c'est ce qui, quand c'est très vieux, en général, c'est les premières vrillettes et autres se mettent dedans. Ça n'a pas le miracle d'être un matériau qui est solidaire avec le reste. Donc, n'en parlons plus. Après, on arrive à l'écorce, qui est faite de plusieurs couches aussi. Hein, il y a ce qu'on appelle le combium. C'est la nurserie de l'aubier. C'est là où l'aubier se fabrique pour devenir ensuite, etc. Ça vient, tout ça, on arrive vers l'extérieur. Ensuite, il y a le libère. Le libère, c'est la partie interne et vivante de l'écorce. Mmh. C'est là-dedans que circule la sève. Et après, il y a le subère. Le subère qu'on connaît tous ici, puisqu'un endroit... Si, un endroit où il y a du chien de liège, ça s'appelle une subraie.
Une subraie, c'est vrai.
Eh bien, tiens, hein, parce que c'est la couche de protection. C'est l'écorce dans laquelle, d'ailleurs, on trouve aussi... Bien sûr, il y a le liège qu'on a évoqué. Mais sans écorce, il n'y a pas de travail du cuir, par exemple. Puisque le temps... Hein, Le tanin, mais c'est le tanin en particulier qu'il y a dans les écorces, et en particulier dans
les châtaigniers
et chênes, suivant les endroits.
Dites-moi, juste une question incidente à ça, Jean-Pierre. Vous avez coupé un arbre en tranches, d'accord.
Ouais.
J'entends tout le temps dire que pour calculer l'âge d'un arbre, il faut compter les nombres des cernes.
Mais, bien sûr.
Oui, mais comment fait-on pour savoir que tel arbre qui est toujours bien planté, qu'on n'a pas coupé, il a 800 ans, on ne l'a pas touché.
On parle plus fort que les autres.
Ah, d'accord.
Ou alors, mais ça, il ne faut pas le faire trop souvent, on a le droit, les gens qui achètent des bois sur pied, ont le droit de faire, avec une tarière, de faire un sondage. Et donc, dans la tarière, ils retrouvent les cernes. Et donc, ils peuvent compter.
Oui, mais ils le blessent.
Bien sûr, mais il est fait pour être coupé.
Oui, c'est d'accord.
C'est pour en évaluer le prix.
Hein, d'accord.
Alors, le bois, c'est quoi? Puisqu'on a décrit à peu près ce que c'est. C'est quand même avant tout 70% de cellulose.
De cellulose, oui.
Et avec du reste, la lignine.
D'où l'histoire du papier.
D'où l'histoire du papier, bien sûr. Et c'est cette cellulose qui... c'est pas simplement du coton. Hein, prenez d'ailleurs un morceau de coton et imaginez qu'il se referme, qu'il se resserre, qu'il se resserre. Ça devient quelque chose d'extrêmement costaud.
C'est vrai.
Le coton, c'est de la ouate de cellulose, d'ailleurs, on dit, le coton. Ouais. Et puis dedans, il y a aussi plein de choses. Il y a des résines, des tanins, des cires. Et puis, hélas, maintenant, quelques polluants, parce que ça va quand même chercher pas mal de saloperies à l'endroit où ils sont. Le bois, c'est environ 50% de carbone. Il vient d'où, ce carbone? Il y a 5 milliards d'années, il est arrivé au moment de la concrétion de la Terre, en même temps que l'eau, en même temps que tout ce qui fabrique la Terre. Donc ça s'est retrouvé globalement dans l'ensemble de la Terre. Ce carbone, il ressort à l'occasion des éruptions volcaniques. Mmh. Et ça, il y a depuis très très longtemps. Ensuite, il est capturé, si j'ose dire, et il va se remettre, il est piégé, on dit. Il se met dans les pierres, il y a beaucoup de carbone dans les pierres, et aussi dans les sédiments. L'endroit où il y a le plus de carbone au monde, le plus grand réservoir, c'est le fond des océans. Et le bois, c'est aussi, donc on a dit du carbone, le carbone, la cellulose et autres, comment ça se fabrique? C'est grâce, on l'a dit, à la photosynthèse, donc à la lumière. Le bois, c'est aussi de la lumière. Il y a un monsieur qui s'appelle Vandelmont, qui était extrêmement curieux, hollandais, il y a deux siècles et demi, qui a fait un tas d'expériences. Et il a mis un saule dans un bac. Hein. Et au bout de 5 ans, le saule pesait 77 kilos. Alors que la terre du bac n'avait diminué que de 60 grammes. Il y a du miracle là-dedans.
Il y a du miracle.
Et c'est le miracle de la photosynthèse. Nous sommes tous faits de lumière, cher ami. Certains plus que d'autres. Mais la vie, c'est la lumière.
Voilà, Et la vie, c'est aussi... c'est la radio, la vie, c'est ça. C'est discuter avec vous apprendre des choses. Ce que fait Jean-Pierre de manière remarquable tous les dimanches. On va écouter une chanson chantée par Sarok. Il s'agit d'un châtaignier qui se plaint. Ou la main de Yogastagne.
Porque la verdad yo fato a lo gorso goce ingrato chi m'ha fatto la sentenza e a morte m'ha condannato senza gente
Caro, Kiganta, ou Lamento di Westagne, et nous retrouvons tout de suite Jean-Pierre Fleury.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Nous vous parlons du bois ce matin avec Jean-Pierre. Alors, on va venir maintenant parler des qualités et des défauts du bois. Tout d'abord, les qualités, Jean-Pierre, et Dieu sait qu'il y en a.
Oui, on peut peut-être souligner d'ailleurs que le châtaignier, il n'a pas de quoi se plaindre.
Non plus.
Parce que c'est quand même un bois fantastique,
encore une fois.
Bon, je ne parle pas des fruits qu'il nous donne, qui sont quelque chose de vital.
Et il y a une très bonne. Et ça démarre bien cette année.
Et on le sait à Bocconia,
mieux qu'ailleurs,
puisque il est pratiquement
bien
à
sûr,
la foire.
Bien sûr.
Donc les fruits, mais le bois lui-même, c'est un bois qui est extrêmement dur, qui se travaille, avec lequel on fait des très beaux meubles, des charpentes fantastiques qui ont une résistance. Et aussi, c'est un bois qui est tellement chargé de tanins qu'il n'y a pas d'araignée dedans, il n'y a pas de vrillette, il n'y a pas de. Les termites se font mal aux dents quand elles vont dessus.
Ça, c'est mais elles essayent quand même.
Elles essayent. Mmh. Et la seule chose, c'est tellement chargé de tanins, donc ça fait ce qu'on appelle des belluettes. Des belluettes, c'est un mot de là-haut. C'est-à-dire que ça fait des lorsqu'on le met dans le feu, il faut faire très attention. Parce
ça pète.
Que ça pète et ça envoie des brandons. On peut foutre le feu à cause de ça.
Des escarbilles.
Des escarbilles, exactement. Vous avez travaillé à la SNCF ?
Presque.
Non, parce qu'il n'y a pas encore tellement longtemps, il y avait des primes d'escarbilles.
Exact.
C'est-à-dire que quand on chauffait au charbon, les chauffeurs prenaient ces escarbilles, ils avaient une prime pour ça.
Une prime pour ça.
Il n'y en a pas dans le TGV.
Non plus.
La dernière chose, je vous ai déjà posé la question, mais vous savez faire du savon.
Oui.
Bien sûr. Donc, on prend du
je fais que ça, d'ailleurs.
De la graisse.
Vous savez
de ça. Et de la soude.
Et de la soude.
La soude, ça vient de la cendre. Donc, si on prend de la cendre de châtaignier, il y a tellement de tanins qu'on va rouiller les draps si on les lave avec. Donc, ne faites pas votre savon avec de la cendre de châtaignier, s'il
d'accord.
vous plaît.
Enfin.
D'accord.
Bon. Par contre, il n'est pas imputrescible.
Hein. Aucun bois ne l'est complètement.
Le seul qui l'est vraiment, je pense, c'est le pin lariche, puisqu'il était... Non, il n'est pas imputrescible.
Beaucoup moins, non. Il a toutes les qualités, mais pas celle-là. Dans les arbres corses, celui qui est vraiment... Alors, le plus dur des plus durs, c'est le genévrier de Phénicie.
C'est le genévrier, oui.
Celui-là, de Phénicie. Celui-là, alors, c'est du dur.
Solide, quoi.
C'est très simple. Un arbre, il est solide, vous le voyez en le coupant. Hein. Si vous avez, maintenant c'est la tronçonneuse, c'est peine un tout petit peu pour couper, qu'elle bouffe beaucoup d'huile pour en venir c'est que c'est dur et que ça va durer longtemps. Si ça rentre tout seul, ce qui est le cas des conifères, ça ne dure pas.
C'est l'olivier qui l'a déboîlé.
Par chez nous, oui.
Ah ouais.
Alors les qualités du bois, justement, on en parle. La résistance mécanique, c'est certain. Mmh. Mais en même temps, il est plus résistant à la traction qu'à la compression, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement écraser du bois. Il faut s'y mettre. Il a une autre qualité, c'est qu'il est élastique. Alors, je ne parle pas simplement du roseau par rapport au chêne. Le roseau n'étant d'ailleurs pas du bois, mais il est relativement élastique. C'est-à-dire, il revient sur lui.
Hein. Ben, c'est le cas, par exemple, des tonneliers. Les bois, dans les tonneaux.
Ils sont courbés. Ils gardent la courbe.
Ils gardent la courbe, c'est vrai.
Hein. De même pour le tour des roues de charrette, parce qu'on aurait des problèmes.
En parlant de ça, Jean-Pierre, vous qui êtes un pêcheur, moi, je me rappelle d'avoir vu les pointus dans le port de Bastia et même dans le Cap Corse, où ils immergeaient les bateaux de temps en temps.
Bien sûr.
Et après, bon, puis ils la ressortaient, et ils disaient qu'en définitive, c'était pour que le bois continue à vivre.
Bien sûr. Un des meilleurs moyens de conserver son bateau en bois, si vous n'en faites rien, c'est de l'immerger. Vous le coulez.
C'est dingue, ça.
Hein. Eh oui, parce que autrement, le bois va sécher. Et bien sûr, on sait qu'entre chacune des lattes de bois, appelons ça comme ça, il faut que soit il est à clin, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux qui le sont, soit ils sont jointifs. Et c'est là où il faut... De l'étoupe et du goudron. Avec une maillotte pour enfoncer ça.
Bon.
Alors, la résistance mécanique, on en a parlé. Il est léger, sauf quand il l'est pas. Enfin, il est relativement léger. La densité moyenne d'un bois sec, de l'ensemble des bois, c'est 0,6. Il faut savoir qu'il y a une échelle, le balsa, qui est un bois, c'est du bois, le balsa, 0,1.
C'est le plus léger, lui.
C'est une plume.
Balsa, hein. Plume, ouais.
Et puis, on peut parler de l'ébène, qui lui va à 1,2.
D'accord.
Et le gaillac, qu'on appelle le bois de fer, hein, qui est un bois africain, enfin un bois exotique, 1,4. Problème, c'est comme il fait 1,2 ou 1,4, il coule.
Ah oui, logique.
Donc, énorme problème pour les forestiers qui ont découvert ces bois-là, d'ailleurs. Il y a un très beau livre, on a déjà parlé, qui s'appelle La mémoire du fleuve. Il y a un forestier qui découvre ce métier-là, des bois que personne ne connaissait quelque part dans la profondeur du Gabon. Un travail de dingue pour amener ces énormes billes jusqu'au fleuve. ils arrivent au fleuve en se disant, ça y est, on est peinard. Et là, 6 mois de boulot au fond. Donc, c'est aussi quelque chose qui est durable et durable. Ça dépend quand il a été coupé, on est d'accord, putrescible ou pas imputrescible. En faisant attention à quel moment il faut le couper, lune descendante, on rappelle que la lune croissante n'est pas forcément montante, mais on reviendra là-dessus si vous voulez. C'est une histoire de cycles qui sont différents. Je le dis, je ne vais pas le répéter. Ceux qui ont les plus résistants qui est par chez nous, il y a l'olivier, on l'a dit, l'acacia, des cèdres, des chênes et des châtaigniers. Parmi les moins durables, alors je suis désolé...
Et parce qu'il n'y a pas de sapin chez nous en plus.
Il y a les peupliers,
oui, ça y en a.
Les hêtres et les tilleuls. C'est parce que c'est des bois d'ailleurs, enfin comme moi j'ai l'habitude de fendre, j'étais un grand fendeur. Et on voit que la texture du bois n'est pas... C'était un pourfondeur. Dans les qualités, il est rétractable. Ça veut dire qu'il supporte, on l'a évoqué tout à l'heure, des grands changements d'humidité. Ça craque, quoi. Ça craque au milieu d'été. Il change beaucoup plus en largeur qu'en longueur. Une poutre, normalement, elle ne va pas bouger dans sa longueur.
C'est vrai. Alors,
c'est pour ça qu'elle craque dans le... Et puis aussi, c'est un excellent isolant. Et puis, il y a plein de choses.
Mais on le voit, les maisons, par exemple, qui sont copiées maintenant en Corse, par exemple, les maisons qui sont couvertes, qui sont faites en bois, les canadiennes, qui sont faites avec du bois d'ici. Les charpentiers de la Corse qui font ça. Vrai que c'est en tout point étonnant au niveau de la résistance, dans un premier temps, et ensuite de l'isolation.
Alors, le bois peut avoir des défauts.
Puis les parquets.
Bien sûr.
C'est quoi les défauts courants?
Les défauts, alors il y a des noms, la gélivure ou gerçure. La gélivure, c'est les effets du gel. C'est-à-dire qu'un bois, le fût, va être fondu. Moi, je prétends que c'est les effets du gel, mais aussi les effets du poids de l'arbre. C'est-à-dire que c'est pas forcément prévu que le sol puisse accueillir cet arbre quand il devient majestueux. Okay. Donc le sol a des problèmes, se tasse un petit peu, et je pense que l'arbre, à cette occasion-là, se vrille. Le bois devient très difficile à travailler avec ça parce qu'il a plus son sens. Il y a ce qu'on appelle des roulures. Ça, vous l'avez peut-être constaté. On revient aux cernes. Un bois est atteint de roulures quand les cernes ne sont plus jointives. À la limite, vous mettez à la verticale et il va y avoir le cœur du bois, par exemple, va sortir. Donc ça, c'est une roulure. D'ailleurs, le bois se déroule. De manière, le contreplaqué, c'est du bois qui est déroulé. C'est assez étonnant. C'est en particulier l'okoumé, vous l'avez peut-être vu en Afrique. Il y a des machines fantastiques, un petit peu comme des taille-crayons, vous voulez. Et ensuite, on fait des plaques qu'on recolle avec des colles spéciales et on faisait du contreplaqué. Maintenant, ça a quasiment disparu.
Et dites-moi, tu es une roulure, ça vient de là? L'expression
je ne sais pas, peut-être. Moi, il ne me vient pas des idées comme ça.
Mais
vous, à chaque fois, vous demandez.
Ben oui.
Il y a des nœuds. Alors, les nœuds, vous savez ce que c'est. C'est le point de départ des branches et qui reste marqué à l'intérieur du fût.
D'accord.
Il y a parfois, et ça, par exemple, la charpente chez moi qui est en larisse. Il y a des poches de résine qui restent dedans et qui coulent. Quand il fait chaud, ça se met à couler. Bon, c'est un petit défaut, c'est pas très grave, ça fait partie de la vie, tout ça. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les broussins ou les loupes, ce que vous avez évoqué tout à l'heure.
Ah, le bois de loupe.
Ou les brogues. Oui, le bois de loupe. Alors, en gros, sont des kystes. Donc, c'est pratiquement une forme cancéreuse de cellules végétales qui arrivent là, et on se demande pourquoi, n'ont rien à faire à cet endroit-là. Alors bien souvent, ce sont des kystes un petit peu comme les perles en sont, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, une cicatrice qui a mal tourné. Et ça donne, justement, c'est un bois de marqueterie qui est fantastique.
Jean-Pierre, les bateaux que vous avez fréquentés, vous, dans votre jeunesse et même après, tout ce qui était mobilier dans ces bateaux, c'était quoi comme bois? Il y avait un bois particulier pour ne pas subir l'assaut du sel, de l'humidité
Ça dépend quel bateau. Si vous étiez à bord de la galère royale, ça ne m'est pas arrivé. Mais c'était fait pour durer, déjà. Parce que ça coûtait énormément d'argent. Et un des grands problèmes, justement, on arrive dessus, Merci de m'avoir posé la question.
Et alors
bon, il y avait les meubles qui étaient en acajou, etc.
Oui.
Ceux de la...
De la haute.
Même à bord des bateaux, les vaisseaux de guerre, etc. Le carré de l'officier, enfin du commandant, c'était très luxueux. En bas, c'était du bois d'arbre.
C'est autre chose.
Hein. Des bois, quand même, avec les bordées, par exemple, on essayait de faire attention, que ce soit des bois très durs, le plus dur possible. Parce que, et là, on arrive justement... Aux faiblesses du bois, il y a les champignons.
Alors, on va en parler dans un instant des faiblesses du bois, mais j'avais envie de sourire un tout petit peu. Jean-Pierre, vous connaissez mon côté un tout petit peu taquin. On va écouter Henri Dekker. C'est une chanson qu'avait trouvée Marie Jotor, notre programmatrice, il y a quelques années. Elle faisait une émission, ces chansons-là. Voici « Au bois de Boulogne ».
Patin à roulette, un garde manchot sifflait à roulette, la gaufrette au chaud. Guignol se balance, le cheval Charlot se promène et danse autour de l'anneau de mon vieux manège. L'hiver quand il neige, on joue aux boulettes quand on n'a pas chaud. Patin à roulette, un garde manchot au bois de Boulogne. Nous étions enfants au bois de Boulogne, où je t'aimais tant. C'est une fillette et c'est un nigaud qui font la boulette de ces métros tôt. L'allée est ouverte, la vie est trop verte, l'amour fait déjà courir sous nos pas. Le temps d'amourette, le temps des fillettes, sifflet à roulette, un garde manchot. Patin à roulette, le cheval Charlot. Où je t'aime, où je t'aime, où je t'aime tant.
Voilà Henri Dekker au bois de Boulogne. Il est temps pour nous de retrouver Jean-Pierre et les défauts du bois.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Les défauts et les qualités du bois, on en parle.
Juste une petite remarque sur cette chanson. Déjà, c'est bien, ça ne dure pas trop longtemps.
C'est vrai.
La deuxième, c'est le bois de Boulogne. Boulogne, c'était une autre façon de dire le chêne autrefois. Dis-moi comment tu dis le chêne, je te dirai d'où tu es. Tu dis du Ken, tu es du nord de la France. Tu dis du chêne, tu es du centre de la France. Tu dis Quercy, Quersus, tu es du Quercy. Et tu es Leitchia, tu es Corse.
Ah,
donc là, le bois de Boulogne, c'est le bois du chêne.
Ah ben ça, je ne savais pas du tout.
Oui, et le chêne dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les pipes.
Exact.
Sauf peut-être au bois de Boulogne.
C'est possible aussi.
Bon, voilà.
Merci, Ami de la Poésie.
J'ai pas pu résister, excusez-moi.
Non, mais j'y attendais. Attendez. C'est dimanche.
Bon, alors, les ennemis.
Il y en a.
On a parlé des champignons, les moisissures. Alors, que l'arbre soit vivant, en train de mourir, ou qu'il soit déjà devenu des bois de charpente ou des meubles, il y a les moisissures qui se collent dedans. Ça, c'est... Et il y en a toute une myriade. Il doit y avoir environ... 9000 espèces de moisissures en France.
Les moisissures et champignons, c'est la même chose, hein ?
Ce sont des champignons.
Ah, d'accord, ok.
Sur les 1000 et quelques champignons qu'on connaît, Il y a les 10 000 et quelques espèces de champignons qu'on connaît, il y a environ 9 000 espèces de moisissures.
Et à quoi on voit que le bois est attaqué, Jean-Pierre?
C'est qu'il le montre, c'est-à-dire qu'il se dilète. Il est bouffé. Alors, il y a un champignon, lui, qui est un champignon géant, à l'inverse, qui est la mérule pleureuse.
C'est joli.
Vous parliez tout à l'heure des bateaux. Certains historiens disent que la bataille de Trafalgar a failli ne pas avoir lieu parce qu'à la fois la flotte anglaise et la flotte française étaient mérulées. La mérule, c'est un champignon complètement étonnant dont le cœur peut se situer à un endroit et les filaments vont se balader, traversent le ciment, vont monter à 5, 6, 7, 10 mètres de là, aller vers les charpentes et faire tomber un édifice du XVIIIe siècle. Ça s'appelle la mérule. Ça existait déjà dans la Bible, puisque dans la Bible, on reconnaît ça. Celui dont la maison est mérulée et qui ne la brûle pas est, je sais pas comment on dit, excommunié. Il n'a plus le droit d'être dans la collectivité.
Jean-Pierre, quand on va voir un menuisier, par exemple, ou un ébéniste, on voit qu'il ne travaille que du bois qui est sec. Oui. Il y a des raisons à ça, justement, parce que si c'est humide, il y a les champignons.
On devrait dire ça. Oui, tout à fait. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, ce sont des bois qui sont situés dans des zones où ils ne devraient pas être. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a une extrême humidité. C'est pas des zones qui sont noyées, c'est des zones qui sont extrêmement humides. Donc on se dit, tiens, le bois est pourri. Parce que cette mérule mange justement, se nourrit de la cellulose de ce bois qui finit par pourrir.
Donc, ce qui veut dire, Jean-Pierre, que dans des zones marécageuses, je pense notamment à la Louisiane où il y a énormément de bois, ils ne pouvaient pas l'utiliser, ces bois-là.
Non, bien sûr, tout à fait. Oui. Vous avez été en Guyane, vous avez vu le problème. Alors là, c'est bouffé en permanence. Alors, ces défauts-là, on va parler des termites aussi, d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Alors bon, les termites, on va parler des insectes, maintenant, qui sont les ennemis du bois. C'est surtout, très souvent, leurs larves, d'ailleurs. La larve du Capricorne. C'est quand même un gros ver blanc qui fait 7-8 cm de long. Donc il faut en mettre là-dedans, ça vit pendant 2 ans. Donc ça fait des trous ça vit du bois. Il y a les belles abeilles charpentières, vous savez, celles dont on a parlé, là, qui sont bleues, dont il y a eu une explosion des populations cette année, en tout cas du côté d'Aquadoria. Ces abeilles charpentières, elles sont charpentières justement parce qu'elles vont dans le bois. Donc avec une vrille, et ensuite la larve se développe dans le bois en mangeant le bois. Donc c'est pas forcément très bien. Il y a tous les scolytes dont on parlait, les scolytes qui font crever les ormes et qui maintenant font crever les palmiers.
Les
palmiers, c'est pas du bois, mais c'est de la cellulose. Donc c'est le cycle infernal de cet insecte qui va pondre sa larve. La larve se développe, elle transporte un virus qui fait crever l'arbre.
En plus, tous ces virus, tous ces insectes, Jean-Pierre, vous parlez de ceux qui font leur nid dans les corses, mais il y en a plein qui attaquent aussi d'abord le feuillage avant d'arriver dans l'arbre.
Bien sûr, tout à fait. Là, on parle du bois. Le feuillage, il est fait pour ça. Les hannetons, c'est extraordinaire ce que ça peut manger. Mais parfois, c'est quand même bien qu'on mange le feuillage. Rappelez-vous les vers à soie. Pourquoi ils étaient sur les mûriers? Les mûriers, on les connaît. Il y en a encore quelques-uns qui datent du temps où on savait faire du vers à soie dans le Cap en particulier. Et c'est parce que c'est des arbres qui ont des grandes feuilles. Le bombyx du mûrier va là-dessus parce qu'il il se régale de tout ça. Alors, il y a dans les insectes, il y en a aussi, il y a les vrillettes. Alors c'est très joli la vrillette.
C'est joli, oui.
Mais c'est celle, en gros, on va dire, en gros, qui fait les petits trous qu'il y a dans les meubles.
Oui, exact.
Ceux qui sont imités, paraît-il, par les antiquaires qui font du vieux avec du neuf.
Mais Jean-Pierre, est-ce que les remèdes qui sont attribués maintenant pour traiter ces arbres, est-ce que les remèdes sont pas pires que le mal? Parce qu'on leur file des saloperies quand même. Les xylos machin,
les
insecticides en trempage.
Il n'y a pas que du bon là-dedans, loin de là. C'est bien sûr, mais c'est entre deux mots, il faut choisir le mot. Alors, par exemple, si c'est votre maison, on va parler des termites. parce que le, c'est d'ailleurs, on souligne, pour qu'elle soit encore plus sympathique, c'est une cousine de la des blattes,
ouais.
Donc des cafards. Donc c'est alors il y en a 2000 espèces de par le monde, ça en fait quand même, et le nombre d'individus c'est par milliards de milliards, hein, parce que on rappelle que notre bestiole préférée, comment elle s'appelle,
l'oryctéroplop.
Voilà, l'oryctérop, vous l'avez très bien dit, se nourrit tous les jours de 50 000 termites.
Ah, je le bénis, celui-là.
C'est en Afrique, vive. Vous savez comment, vous me parliez de méthode douce pour se protéger contre les termites, eh bien, adoptez un oryctérop.
Hein, je vais en faire venir quelques uns ici.
Vous n'aurez pas de termites. Il y a 6 espèces de termites en France. Autrefois, il n'y en avait pas d'ailleurs. Je pense qu'il y a une termite qui s'appelle la termite de Saint-Onge. Donc Saint-Onge du côté de la Vendée, il semblerait que ce soit du côté de La Rochelle qu'on ait vu les premières termites il y a 2 ou 3 siècles. Enfin bon, on ne va pas leur en vouloir. Des choses terribles. À la mairie de La Rochelle, les archives, elles ont disparu. Bouffées par les termites. Ça peut arranger certaines affaires d'ailleurs.
Oui.
Si vous avez des termites chez vous, alors bon, ça mange le bois, on l'a dit, on s'en aperçoit parce qu'on voit le bois qui disparaît, qui se délite, qui devient poussière, quoi. Si vous avez des termites chez vous, vous êtes obligé
de faire une
déclaration à la mairie. Hein, et les travaux de désinfection sont à la charge du propriétaire. Sauf que parfois, il y a une solidarité qui vient, vous savez, de l'ANA.
L'Agence d'amélioration de l'habitat.
Voilà, qui peut donner une...
Ça coûte un bras, hein, le traitement.
Ça vaut environ 3 000 euros pour une maison de 70 mètres carrés. Quand la maison tombe, ça coûte un peu plus cher. Donc, quand vous achetez une maison, maintenant, il faut un certificat de non-termite.
Exact.
Suivant les endroits. Mais il y a maintenant 66% du territoire français, inclus la Corse, qui sont termités. Donc vous êtes obligé de le faire. Normalement, il y a ce certificat qui fait que un notaire ne peut pas vendre s'il n'a pas ce certificat.
Ah oui, ça c'est évident.
Hein. Alors le traitement, c'est de la chimie. On a dit,
il y a de l'arsenic, il y a un peu de tout à l'intérieur.
Ouais. Alors c'est une particularité qui va vous plaire. Non, c'est pas vrai. Ça mange de la cellulose. Ça dégrade la cellulose. Et la cellulose, il y a quand même dedans, il y a des gaz dedans. Et donc il paraît que la termite est une grande péteuse. Voilà.
Ah bon ?
Ça m'amuse, certainement.
Mais je vais l'appeler la grande péteuse, maintenant.
Voilà. Il y a certaines espèces qui, elles, digèrent mal la cellulose.
Ah oui.
Alors là, ça devient complètement étonnant, parce qu'elles cèdent des champignons. Elles cultivent sur des champignons sur des amas de leurs excréments.
Oui.
Et ces champignons prédigèrent la cellulose. Et après, non plus qu'à se remplir et s'en mettre une... Et il y en a d'autres qui sont... Heureusement d'ailleurs que tout est recyclé. Il y en a d'autres qui mangent de l'humus. C'est-à-dire qu'elles mangent de la terre. On a l'impression qu'elles sont mangeuses de terre. Pas du tout. Elles trient les substances minérales d'un côté, substances végétales, donc l'humus, en général végétal, parfois venant des animaux. Et donc, ces termites sont... d'ailleurs, fabriquent des... Pour avoir ces champignonnières, fabrique des termitières immenses, énormes. C'est les plus grandes qu'il y a en Afrique.
Oui.
En voyant la forme des termitières, les spécialistes sont capables de déterminer l'espèce de termite dont il s'agit.
Et puis quand on les voit, elles sont assez grosses d'ailleurs.
Les termites sont censées ne pas... c'est un petit peu la même organisation que les fourmis. Hein. Donc il y a des castes, il y a les ouvrières. Il y a les termites soldats, qui certaines sont extrêmement costauds, qui ont des énormes pinces. Et il y a bien sûr les reines qui font environ 60 fois la taille des ouvrières, parce qu'elles sont pleines d'œufs. Enfin, c'est pas forcément une sinécure d'être reine des termites. Quoi.
Alors, il faut expliquer aussi à nos amis, Jean-Pierre, qu'il faut conserver nos forêts, mais on n'explique pas forcément tout le temps pourquoi. D'abord, parce que elles n'ont rien demandé, elles sont là et elles ont besoin de vivre. Et puis la seconde chose, c'est que quand on voit ce qui a brûlé en Amazonie et ce qui brûle en ce moment en Australie et ce qui a brûlé au Portugal chaque année...
En Californie et partout,
on se dit que ça amenuise de plus en plus notre écosystème et notre manière de vivre.
Oui, parce que, alors, moi, ce que je trouve plus grave, bon, qu'on suffoque à cause de nos bêtises, ça, c'est une chose, mais que ce soit tout ce petit monde dont on parle qui disparaisse. On a parlé de la savane. Quand il y a un feu de savane, c'est quelque chose de terrible. Tout est grillé. Quand il y a un feu de maquis, regardez le résultat. Ça fait mal au cœur. C'est extrêmement dommage. Bon, en même temps, les feux existent depuis que le feu existe. Hein,
ouais,
ça fait extrêmement longtemps. Les histoires d'apport en oxygène, là aussi, les scientifiques, il y en a certains qui disent qu'une bonne forêt est une forêt jeune, parce qu'elle se développe, donc elle va lâcher beaucoup d'oxygène. Une vieille forêt est au mieux équilibrée en oxygène, ou alors capture l'oxygène parce qu'elle fabrique du méthane, justement. Donc il faut énormément d'oxygène pour faire le méthane. Enfin, tout ça est vieux comme le monde. Et puis, ce qui est heureusement qu'il y a encore des chaînes, des arbres qui ne sont pas simplement des choses d'un tissu végétal, parce que une forêt qui est faite uniquement d'arbres qui se ressemblent, on voit pas la différence, mais il y a les arbres remarquables. Alors il y en a de par le monde. Si on a le temps, on peut en reparler, parce que ça fait rêver. Les plus grands, c'est les séquoias, hein, qu'il y a en Californie. C'est quand même le fameux Hyperion ou Sherman et autres. Ça fait quand même 115 mètres de haut, hein. Le Sherman, il y a 150 mètres cubes dedans. Vous voyez, un mètre cube de bois, vous en avez un mètre cube et demi quand vous faites rentrer le bois, ou deux mètres cubes. Il y a des cyprès qui sont énormes au Mexique, qui font 36 mètres de diamètre.
Hein, 36 mètres de diamètre.
Oui, monsieur.
Ouais, ouais.
Les plus vieux, on parle en France, il y a un olivier à Roquebrune qui aurait 2000 ans, en Crète 3000 ans. Il y a un cèdre du Japon qui est entre 2000 et 7000 ans. Un cyprès chauve aux USA qui a 35000 ans. Il a déjà brûlé trois fois d'ailleurs, celui-là il s'en est remis. Il y a un if, hein, au Pays de Galles, il aurait 40000 ans. Non, 4000 ans, pardon.
Ah, il paraît que l'un des châtaigniers les plus âgés du monde serait dans la région de Pianello. C'est en plein oriental, au-dessus d'Aléa. Il paraît qu'il serait l'un des plus vieux.
Alors, il y en a un qui est à Zonza. Lui, il a 12 mètres de diamètre. Mais je vais arriver quand même à une chose, avant de parler justement des arbres remarquables en Corse. Il y a une chose qui est complètement étonnante. C'est une colonie de trembles. Ceux-là sont des trembles nains, pratiquement. Et par repousse, par clonage naturel, ça fait pratiquement 2, 3, 5, 10 km carrés. Elle aurait 80000 ans.
Waouh!
Alors, on arrive maintenant, si vous voulez.
Et rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Hein.
Vous n'aimez pas les arbres corses?
Je les adore, moi.
Bon, faites un effort. Il y a un sapin blanc, par exemple. Si, il y a un sapin, justement, au col de Verde, qui fait 4 mètres de diamètre. Un hêtre au col Saint-Pierre, qui fait 1,5 de diamètre. Il y a un buis qui fait 90 cm les gorges. Il y a le fameux olivier de Filitosa, qui aurait 2000 ans. Et on va terminer là-dessus parce que c'est très beau. Il y a un lentisque à Ghisonaccia qui avait 1000 ans. Il y a eu un incendie. La dame qui en était propriétaire a dit l'arbre d'abord, une maison, ça se reconstruit. Occupez-vous de l'arbre, il a 1000 ans.
Et ils l'ont sauvé.
Ils l'ont sauvé.
C'est magnifique. Et on va se séparer avec cette chanson de Francis Cabrel, Le Chêne Liège. Jean-Pierre, je vous souhaite le meilleur bonheur du monde.
Oui. Pourquoi?
Comme ça, je sais pas.
Ah bon?
J'ai envie que tout le monde soit heureux autour de moi. Et je sais que c'est le cas. Nous, on va se retrouver le dimanche prochain. En tout cas, plein de choses sur les arbres. On va terminer en vous disant, vous vous en foutez complètement, mais que pour moi, le plus beau, c'est le noyer. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps été passionné par le noyer. Et vous? C'est mon droit, oui.
Moi, qu'est-ce que c'est l'arbre que je préférais? Le micocoulier.
Ah voilà, mais vous l'avez dit.
Parce que j'aime bien le nom.
Voilà, j'avais compris, j'ai entendu ça au début de notre rendez-vous. Salut Jean-Pierre, voici Francis Cabrel, salut.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains
de stratège, costume noir, cravate beige ou turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches, ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne-liège, pris comme dans les fils d'un piège? Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne-liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux. Descendait quelques arpèges par un après-midi plus.